7h08, merci d'être avec nous à Que l'Outaouais se lève. Soyez prudents sur les routes, parce que veut pas, il y a eu cette petite neige-là. À certains endroits hier, ça a l'air de rien, mais il y a eu comme un petit peu de pluie verglaçante. Puis là, ça a comme saisi tout ça, moins quelque chose, ça fait. Et vous pourriez peut-être être surpris à certains endroits, dans les rues secondaires notamment, mais de façon générale, bravo, ça s'est bien passé la première tempête de neige. Là maintenant, parlant de tempête, il y en a une couple qui s'en viennent. On va voir comment ça va se dérouler. Notre collègue Joël Denis Bellavance est avec nous. Salut Joël Denis, comment ça va?
Bonjour Michel, ça va bien toi?
Ah oui, ça va bien. Et M. Trudeau, il y en a une puis une autre là, hein, à gérer. Entre autres, j'ai envie de dire, c'est pas parfait avec Québec actuellement. Hein? Tantôt, Marc Legault au Sport nous a dit, il y a comme dans un meeting à la ville de Gatineau, le Wi-Fi a coupé. J'ai envie de dire, des fois, le Wi-Fi, il coupe entre les deux, entre Québec et Ottawa.
Oui, effectivement, il y a quelques pommes de discorde qui apparaissent à l'horizon, notamment sur la question linguistique, je vous dirais, parce que le gouvernement de François Legault, évidemment, veut modifier la loi 101, la renforcer. Et dans les rangs libéraux, on voit ça avec un peu de hantise. Pourquoi? Parce que la mission du gouvernement fédéral, évidemment, c'est de faire la promotion des langues officielles, y compris de faire la promotion de l'anglais au Québec. Donc, de soutenir les minorités anglophones au Québec. Or, il y a un discours plus nationaliste qui a été adopté, je vous dirais, de la part de certains ministres au sein du gouvernement Justin Trudeau, notamment de Mélanie Joly, la ministre du Tourisme, Développement économique et des langues officielles, qui dit haut et fort que le français est en déclin moral, il faut le protéger, mais de là à donner son appui à ce que la loi 101 s'applique, par exemple, aux entreprises qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, en fait, qui sont de juridiction fédérale, comme les banques, les télécommunications, etc. Il y a un pas qu'on ne veut pas franchir. Pourquoi? Parce que au sein même du Parti libéral du Canada, il y a des troupes qui viennent du Québec, des députés anglo-montréalais, si vous voulez, qui ce serait la fin du monde d'avoir à voter en faveur d'une loi qui permettrait à la loi 101 justement de s'appliquer aux entreprises qui sont réglementées par le gouvernement fédéral. Donc, il y a peut-être un petit schisme qui va apparaître, et ça, c'est un peu le résultat de ce que prépare Québec en matière de loi linguistique pour renforcer la présence du français, s'assurer qu'on soit servi en français, par exemple, à Montréal, et faire en sorte qu'on fasse davantage de promotion de la langue française. Ça pourrait provoquer un petit schisme, je vous dirais. Et d'ailleurs, Mélanie Joly évoquait carrément qu'il y a une crise linguistique qui nous pend au bout du nez. Je pense qu'elle parle en connaissance de cause parce qu'elle sait ce qui s'en vient au Québec, mais elle sait aussi ce qui pourra se produire au sein même de son propre parti, le Parti libéral du Canada.
Fait que c'est ça qui, tu sais, c'est bien illustré. Il y a quelque chose qui se passe, mais là, chaque personne commente, s'implique dans un dossier, mais en même temps mesure l'impact que ça pourrait avoir sur sa réélection. C'est un petit peu ça là, qui se passe.
Oui, et d'autant plus à Ottawa, Michel, parce que le gouvernement libéral de Justin Trudeau est minoritaire à la Chambre des communes. Donc, des élections fédérales pourraient survenir. Si on n'était pas en temps de pandémie, je pense que les élections fédérales auraient déjà eu lieu. Sauf que je crois qu'on peut se diriger vers un scrutin fédéral au pays probablement au printemps l'année prochaine. Donc, on se prépare et on sent aussi que les autres partis se préparent. Bon, la raison suivante, c'est que le dossier linguistique est devenu un dossier qui a été hautement, évoqué par le Bloc québécois. Oui, évidemment, parce que le Bloc propose des choses, mais aussi par le Parti conservateur de Bruno O'Toole. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu des questions qui ont été posées à la Chambre des communes à Justin Trudeau, qui l'a amené à dire que oui, la loi 101 était importante et était nécessaire pour protéger le français au Québec, mais le chef du Parti conservateur, Bruno O'Toole, s'est porté à la défense de la loi 101 à la Chambre des communes. Jamais, depuis que je couvre la colline parlementaire, je n'avais entendu un chef fédéraliste, chef d'opposition, conservateur au surplus, défendre la loi 101 à la Chambre des communes. Donc, on vit des moments sans précédent, je vous dirais, des moments historiques. Et c'est parce qu'évidemment, on prépare le terrain électoral, mais aussi, il y a une situation qui l'exige, c'est-à-dire l'avenir du français au Québec et au pays.
Là, en attendant, Justin Trudeau fait des mamours à Joe Biden?
Beaucoup de mamours. Je vous dirais que après avoir vécu, je vous dirais, les 4 années tumultueuses de Donald Trump à Washington, le retour à la normale fait du bien à Ottawa. Même, je vous dirais que le gouvernement Trudeau, oui, fait peut-être des mamours, mais les partis de l'opposition aussi sont heureux de voir qu'il y a un changement de ton qui s'amorce à Washington. Et je vous dirais qu'il y a quand même des liens, des canaux de communication intéressants qui sont déjà établis entre l'entourage de Justin Trudeau et l'entourage de Joe Biden. Je donne un exemple fort intéressant. Jen O'Malley Dillon, c'est la chef de cabinet adjointe de Joe Biden. Madame Mellon est venue à Ottawa à quelques reprises donner des conseils stratégiques aux libéraux Justin Trudeau. Elle est même venue à Montréal lors du congrès libéral biennal en février 2014 pour prononcer un discours. Et donc, il y a des liens de communication déjà solides qui existent, sans compter que Joe Biden connaît bien le Canada, connaît bien Justin Trudeau, connaît bien le père de Justin Trudeau, qui l'avait appelé dans les années 70 pour lui offrir ses condoléances quand Joe Biden avait perdu son épouse et un de ses enfants, une jeune fille, dans un accident de la route. Donc, il y a des liens intéressants. Et M. Biden commence à former son équipe. On l'a vu, il a nommé notamment Anthony Blinken, ouais, secrétaire d'État, qui parle super bien français. J'ai écouté quelques-unes des entrevues qu'il avait données dans le passé en français. C'est un français vraiment impressionnant. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des liens diplomatiques forts qui soient établis parce que le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, est un Québécois, donc va sûrement lui parler en français. Mais il a aussi nommé John Kerry, un ancien secrétaire d'État qui parle aussi le français, qui connaît bien le Canada, étant un ancien élu du Massachusetts. Et M. Kerry était nommé envoyé spécial pour le climat. Donc, ça veut dire que les États-Unis veulent réintégrer l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il y a des beaux liens de communication. Et un autre élément que je vous mentionnais, Michel, c'est que M. Biden voudrait nommer aussi Janet Yellen au secrétaire au Trésor. Ça, c'est l'équivalent du ministère des Finances, du ministre des Finances. Oui. Donc, une femme, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, accéderait aux finances. Or, on vient de franchir cette étape au Canada cet été avec la nomination de Chrystia Freeland, la première femme à occuper le ministère des Finances dans l'histoire du pays. Donc, deux femmes qui vont occuper les plus hauts postes importants dans un gouvernement, c'est-à-dire celui des Finances, c'est quand même intéressant. Le Canada a fait preuve de, comment dirais-je, de clairvoyance en nommant Mme Freeland parce qu'elle est extrêmement compétente, mais vous voyez, elle aura une femme comme vis-à-vis à Washington si sa nomination est confirmée évidemment par le Sénat.
Ça veut dire que dans les 7-8 personnes les plus influentes aux États-Unis, il y en a deux qui parlent très bien le français. C'est un record du monde. Ça se peut pas.
Je pense que oui. Et en plus, l'administration qui va prendre le pouvoir, si tout est confirmé par le Sénat, dans le cas de Janet Yellen, c'est l'ancienne présidente de la Fed, donc elle a une réputation très solide, même auprès des républicains, donc elle devrait être confirmée, l'administration devrait être confirmée par le Sénat. Elle connaît bien aussi la politique monétaire, donc va travailler de pair avec le Canada pour qu'on se sorte de cette crise économique provoquée par la pandémie. Donc je trouve, en tout cas, jusqu'ici, les indices laissent entrevoir que la relation pourrait être solide entre le Canada. Un retour à la normale, comme j'ai dit, après des années tumultueuses de Donald Trump.
OK. Rapidement, l'annonce de la nouvelle mise à jour économique, c'est quoi ça? Ça va changer quoi dans la vie du monde, ça, Joël Denis?
On va savoir si nos finances publiques fédérales sont viables. On va savoir l'ampleur du déficit. Cet été, l'ancien ministre des Finances évoquait un déficit de 343 milliards de dollars. Michel, vous avez bien entendu, 343 ouais. milliards de dollars. Mais n'avait pas donné de projection pour les années à venir. Or, Mme Freeland, dans sa mise à jour économique et financière de lundi prochain, le 30 novembre, devrait nous donner un peu plus un portrait précis de l'exercice financier en cours, mais aussi des prochains exercices financiers. Est-ce que l'encre rouge va continuer à couler à flot à Ottawa? Je soupçonne que oui, mais on en saura davantage à ce moment-là. L'ampleur des déficits pour les prochaines années également.
OK. En terminant, là, M. Legault nous a dit, on a un contrat moral, nous autres, avec la population. Là, on espère se donner 4 jours où on va pouvoir célébrer dans le temps des fêtes, c'est-à-dire le 23, le 24, le 24, le 25, le 26, le 27. M. Trudeau avait pas l'air si convaincu que ça. Puis j'écoute, là, il y a des bonnes nouvelles ces temps-ci, il y a des vaccins qui s'en viennent, puis on commence à parler de campagne de vaccination. Est-ce que le gouvernement fédéral est réticent à tout ça? Parce que là, il y a un message, lui, qui doit porter pan-canadien. Il y a une chose au Québec, on va voir comment les autres provinces vont gérer ça. C'est délicat pour Justin Trudeau, ce dossier-là.
Très délicat, pourquoi? Parce que, M. Trudeau a repris son habitude de faire des conférences de presse devant Rideau Gate pour illustrer l'importance de rester à la maison durant cette deuxième vague. Et même les réunions du cabinet, Michel, je vous le confirme, c'était en personne jusqu'à la semaine dernière. Maintenant, ça va se faire par Zoom pour encore une fois envoyer le signal comme quoi il faut rester à la maison. M. Trudeau doit composer non seulement avec la situation au Québec, mais pour une situation qui se détériore dans le reste du pays. En Alberta, par exemple, on enregistre maintenant 1 500 cas et plus par jour, alors que l'Alberta compte moins d'habitants que le Québec. où on enregistre environ 1100 cas par jour. Donc, la situation est peut-être un peu plus sous contrôle et à peine au Québec, mais ailleurs au pays, c'est vraiment le désastre, je dirais. On court vers le désastre et au point où on doit s'attendre à ce que d'autres provinces annoncent des restrictions assez fulgurantes au cours des prochains jours. En Alberta, Jason Kenney devrait annoncer de nouvelles mesures jeudi. Pourquoi? Parce que la situation est hors de contrôle dans sa province. Et d'ailleurs, dans les provinces atlantiques, c'est un peu la même chose. On craint que l'éclosion de COVID-19 reprenne de plus belle. Et deux provinces qui faisaient partie d'une bulle atlantique, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, sont sorties de la bulle, empêchent temporairement des gens de venir sur leur territoire pour justement freiner la propagation du virus. Donc, on peut comprendre la réticence de M. Trudeau. Et on craint, on redoute que le petit laissez-passer donné par François Legault entraîne une hausse des cas au Québec. On ne le dira pas ouvertement, mais on le craint en privé que ce soit le cas.
Merci beaucoup, Joël Denis. Très bon travail encore une fois. On se retrouve sans faute la semaine prochaine.
Merci, Michel. Bonne semaine. Au revoir.
Bonne semaine. Joël Denis Bellavance, chef de bureau sur la colline fédérale pour la presse. On est chanceux de pouvoir obtenir ses collaborations, nous expliquer, nous vulgariser un petit peu ce qui se passe au plus haut niveau politique au pays, chez nous, au sein du gouvernement fédéral. Et je trouve ça très bien de pouvoir lui parler comme ça une fois par semaine pour mettre à jour tous les dossiers. Vous comprendrez que la semaine prochaine, c'est la mise à jour économique. C'est très, très importante. On va savoir, on en est où avec le déficit canadien? 350, 400 milliards de dollars, puis on s'en va où avec ça? On va s'arrêter 7h20 minutes. Restez là dans quelques instants. Je veux revenir sur l'itinérance. Un court commentaire. Je vais vous faire entendre quelque chose également. Avant de vous parler de maisons bigénérationnelles, restez là à Colutta-Westlev.